une contradiction apparente. En tout cas, c'est ce sondage de l'Institut Elabe, une étude qui s'est penchée sur l'humeur des Français et qui constate que, selon ce sondage, donc 8 Français sur 10, 80% des Français, se disent heureux malgré donc une période, une succession de crises, à commencer par la crise sanitaire, évidemment, et ses conséquences, et puis un contexte, on va dire, du débat public souvent assez anxiogène. Eh bien, les Français, quand on les interroge, se disent heureux. Comment expliquez-vous cette contradiction apparente, Brice Couturier ?
Ben oui, c'est bizarre, parce que d'un côté, vous avez 78% des Français qui se disent heureux, d'après le sondage baromètre des territoires, et puis en juillet dernier, je notais qu'il y en avait 72%, d'après l'IFOP, qui jugeaient leur pays en déclin. Donc une espèce de schizophrénie entre le bonheur privé et l'inquiétude globale. C'est très curieux. À mon avis, ça tient au fait que nous avons un État-providence particulièrement efficace. Je rappelle que le pouvoir d'achat a augmenté de manière continuelle au cours des 5 dernières années, 1,3% en 2017, 0,9% en 2018, 2,2% en 2019, mais plus intéressant, légèrement en 2020. Alors même que, quand vous regardez l'enquête qui a été menée par la Banque de France, vous voyez
pas
que...
Pas trop de chiffres, pas trop de chiffres.
Ouais, c'est chiant, je
pas
sais.
Trop chiant.
Vous voyez que le salaire moyen par tête s'est effondré en 2020 pour cause de pandémie, hein, mais que par contre, l'État a compensé
et
avec
le bonheur
des
n'est que
sociales.
Monétaire. Le bonheur ne peut être que monétaire.
Ah ben, ça compte quand même. Hein.
Quand le pouvoir d'achat est la première
préoccupation. Quand vous voyez que dans d'autres pays, le pouvoir d'achat tend à baisser, que les inégalités se creusent, que chez nous, ce n'est pas le cas. Vous comprenez aussi pourquoi les gens sont plutôt contents.
Alors, dans quoi attendez, on vous arrête parce que
Brice, précisément,
oui,
monétaire
du temps pour...
ou pas, inquiétude collective sur le déclin du pays, mais bonheur individuel, tout ça repose la fameuse question du penseur, évidemment, du philosophe, mais il est où le bonheur ? Eh bien, voici la réponse de Bernard Sananès, le président du cabinet d'études Elabe, qui a précisément réalisé cette
Montaigne,
étude.
Mais non, c'est Sananès.
Et d'abord, être en bonne santé, prendre soin de son corps, avoir un métier que l'on a choisi. Ces nouveaux essentiels redéfinissent effectivement cette cartographie du bonheur et font qu'on a redécouvert des éléments qui, avant le Covid, étaient là, mais j'allais dire de manière évidente. Et donc, on ne se rendait plus compte à quel point ils étaient importants.
Sylvie Brunet, ça veut dire que c'est donc en quelque sorte un bonheur par contraste avec précisément cette période de crise, en particulier le Covid. On est passé à côté du pire et donc on retrouve un certain nombre de valeurs essentielles.
Alors les Français se sont recentrés sur les valeurs familiales, ils ont redécouvert le paysage familier, ils ont redécouvert la campagne, il y a une sorte d'exode urbain.
Pas tous.
Mais en même temps, justement, voilà, nuance. Il ne faut quand même pas exagérer. Moi, je me demande quand même qui a été interrogé. Pourquoi ? Parce que ce qu'on voit...
C'est un échantillon représentatif des Français.
Oui, mais alors il y a 15% des Français qui aujourd'hui sont sous le seuil de pauvreté. Aujourd'hui, il y a une inflation des prix alimentaires, des coûts de l'énergie. Les Français disent on ne s'en sort plus avec la multiplication, la dématérialisation et le fait qu'on n'arrive plus à créer du lien humain. On sent qu'il y a de l'agressivité. N'oubliez pas qu'en fait, les 3 ans... Là,
des gilets jaunes,
c'était en novembre 2018. J'étais à Alençon la semaine dernière. Il y avait des gilets jaunes au Carrefour. Donc je me suis dit, est-ce qu'il ne risque pas de revenir ? Je me demande quand même dans quelle mesure ce sondage n'est pas aussi un vœu pieux au regard de la réalité quotidienne des Français.
Mais la question, c'est pas est-ce que tout va bien ? La question, c'est est-ce que vous connaissez le bonheur ? C'est pas pareil. Et oui, on pose pas la question aux Français, est-ce que tout va bien dans votre vie ? On sait, 12% des Français ont au moins participé à une manifestation de gilets jaunes. On sait sur la situation économique de certains foyers, la situation est difficile. On sait que sur les territoires, aujourd'hui, avec la fermeture d'un certain nombre d'infrastructures essentielles, ça va mal. Mais c'est pas la question qu'on leur a posée. On leur a posé, est-ce que dans ce pays, vous connaissez le bonheur et vous vous sentez heureux ? C'est très différent comme approche. Parce que le bonheur, on vient de le dire, et Sananès a entièrement raison dans ce qu'il a défini, on s'est rendu compte de la chance que l'on avait de vivre dans ce pays.
Donc comparativement,
exactement,
vous voulez dire.
Exactement, parce que si vous posez la question au regard du reste du monde, la situation, la manière de vivre en France, l'accès à la santé, la possibilité de circuler sur notre territoire, la paix, le fait que les gens, on a beau dire qu'ils s'opposent politiquement...
La fameuse maxime Pascal Blanchard, quand je me regarde, je me désole, mais quand je me compare, je me console.
Exactement, et les Français s'en sont particulièrement rendus compte avec la prise en charge qu'il y a eu pendant la crise Covid. On a critiqué notre système de santé, mais en même temps, le système de santé a été à la hauteur et a tenu le coup. On s'est rendu compte que les gens avaient beaucoup plus de solidarité qu'on pouvait l'imaginer. Alors oui, ils ne sont pas au quotidien satisfaits de ce qui se passe dans leur vie. Ils peuvent y avoir des critiques extrêmement... Par exemple, sur l'écologie, on le voit dans ce sondage.
J'allais vous dire, il peut y avoir une énorme anxiété écologique.
Angoisse sur l'écologie, mais en même temps, êtes-vous heureux dans votre angoisse ou dans votre déclin ?
Très bien.
Eh bien, sur le fond, ils sont heureux. C'est une bonne nouvelle de savoir que nous vivons dans un pays où les gens sont heureux d'y vivre.
De la semaine, une philosophe, brillante philosophe, Isabelle Queval, bonsoir.
Oh, bonjour.
Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes également une ancienne sportive, joueuse de tennis de haut niveau, et vous travaillez sur un champ philosophique qui concerne le sport, le corps humain, le sport augmenté et le corps augmenté. Et vous êtes co-commissaire de cette stimulante exposition aux frontières de l'humain qui a lieu jusqu'au mois de mai, hein, je crois, au Musée de l'Homme. Isabelle Queval, qu'est-ce qu'un humain ? Est-ce qu'on définit un humain par quelque chose, un être qui est différent d'un animal, ou est-ce que le propre de l'humain, c'est de se dépasser ?
Alors justement, dans cette exposition, on essaye de définir l'humain à partir de la notion de frontière. Et à l'instant, vous venez d'illustrer le fait que la frontière, c'est la grande question de la modernité. Nous avons hérité de la philosophie des Lumières l'idée que le progrès était infini.
Le culte du progrès.
Progrès humain. Mmh. Que nous étions toujours dans un dépassement possible à la fois des connaissances, des limites physiques, des performances humaines. Et justement là, maintenant, se pose la question, particulièrement dans cette exposition, de ce dépassement qui peut devenir transgression. Voilà. Et donc, outrepassement d'un certain nombre de limites plus ou moins admises, que parfois on appelle naturelles, sans toujours bien définir ce que veut dire naturel.
Il y a une différence entre le corps naturel et le corps augmenté, par exemple dans le sport.
Alors, cette différence, elle est formelle, elle est conventionnelle, puisque souvent, on définit notamment le dopage comme une amélioration artificielle par opposition à naturel. Bon, encore faudrait-il pouvoir définir ce que c'est qu'un corps naturel et un sport naturel, car en réalité, toute l'histoire du corps, et en particulier celle du sport, qui est plus récente, c'est l'histoire aussi d'un corps technique et technicisé. Quand on dit aujourd'hui, et notamment en voyant ces prothèses, que la technique ou la technologie arrive dans le sport, en réalité, elle y est depuis toujours, puisqu'on a cherché au travers des chaussures, des ballons, des perches, de tous ces matériaux et matériels du sport, à améliorer techniquement la performance humaine. Donc ce n'est pas une nouveauté, elle est devenue spectaculaire.
Un Oscar Pistorius, qui courait avec une prothèse extravagante et totalement ergonomique, c'est quoi ? C'est humain, artificiel, qu'est-ce que c'est ?
Alors, c'est quelqu'un qui a d'abord changé le regard sur le handicap, parce que devenu égérie de marque de mode, de même que l'athlète et mannequin Aimé Mullins, sur le même registre, il a permis d'envisager que la performance des sportifs équipés de prothèses puisse un jour dépasser celle des sportifs valides, et a obtenu aux Jeux Olympiques de Londres des médailles dans le domaine des valides et dans celui des paralympiques.
Voilà. Brice, vous lui posez une question, Isabelle Queval, vous êtes fascinée par le sujet, je crois.
Oui, le corps augmenté, je vois bien que ça ne change pas profondément l'idée de la nature humaine elle-même. Mais à partir du moment où on a des puces dans le cerveau, comme c'est en train d'être le cas pour certains militaires, pour des actions extrêmement rapides, notamment pour les pilotes d'avion, est-ce que là, on ne change pas d'échelle et est-ce qu'on ne sort pas de l'humain tel qu'on l'a connu jusqu'alors ? Est-ce qu'on n'est pas quelque chose d'autre comme un cyborg, quoi, un cyborg ?
Voilà, c'est toute la question qui est posée dans cette exposition. C'est-à-dire, est-ce que augmenter, c'est améliorer dans le droit fil de ce rêve, de cette croyance de la philosophie des Lumières, ou est-ce que nous allons passer dans un post-humain, ce qui, là, est le rêve des transhumanistes, c'est-à-dire créer, finalement, un humain après l'humain qui, en bénéficiant de toutes ces technologies, d'une certaine manière, crée presque une nouvelle espèce dans laquelle l'humain naturel apparaîtrait comme en situation de handicap.
Vous, ce que vous craignez, c'est que dans une société, dans un monde, une civilisation qui se déprend de la notion de transcendance, le corps devienne un destin, tout simplement, avec l'immortalité au bout de cette démarche.
C'est déjà le cas, parce que nous sommes dans une société qui est obsédée par la santé, par l'espérance de vie, par la forme, par l'apparence, par le dynamisme, la jeunesse, nous investissons.
Jeunesse éternelle.
Massivement dans le corps, à la fois ici et maintenant, mais aussi comme projet. Car ce que nous souhaitons, c'est vieillir jeune, mourir jeune et en bonne santé. En réalité, c'est ça. L'effort qui nous est demandé, c'est un recul de la vieillesse et de la mort qui pose finalement la jeunesse comme possiblement éternelle et la santé de même.
Renaud.
Et en même temps, est-ce que ce qu'on ne souhaite pas au bout du bout, c'est ne pas mourir ? C'est-à-dire précisément, est-ce que si jamais l'humain prend conscience de sa finitude et de ses limites et ne cherche plus à se dépasser, ben est-ce qu'il n'a pas encore trouvé un sens à l'existence et à sa vie.
Voilà, alors ce sens, par défaut de ces transcendances ou grandes idéologies qui nous ont conduits hein, tout au long du XXe siècle, aujourd'hui se recentre sur l'individu. Voilà. Finalement, la centration de l'identité humaine se fait aujourd'hui sur un corps-œuvre indéfiniment perfectible, avec une espèce de néo-culpabilité chrétienne ou de culpabilité néo-chrétienne qui veut que, au fond, le destin se lise à travers le corps et le comportement, les modes de vie, le comportement corporel, alors que, initialement, c'était à partir de l'âme. Le slogan de la lutte contre l'alcoolisme, à un moment donné, c'était « Votre corps se souvient de tout ». Donc ça, c'est typiquement de l'ordre d'un jugement dernier.
Il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, Isabelle Queval, et ce sera ma dernière question, le mot « limite ».
Voilà.
Comment fait-on quand on veut repousser sans arrêt les limites dans un monde, en l'occurrence un monde, la planète sur laquelle nous vivons, aux ressources limitées?
Voilà. Donc on est
à la fin de l'expo. Hein.
Tout à fait. On est à ce moment d'un télescopage entre ce grand rêve au fond d'une modernité. C'est un peu la différence entre la modernité et la post-modernité. La modernité pressentait un progrès quasi infini de l'homme au travers de toutes ses activités. Et aujourd'hui, évidemment, cet idéal se télescope avec la réalité de l'environnement, des inégalités, de certaines défaillances morales et politiques de par le monde, etc.
Tout ça dans l'exposition.
Tout ça.
Formidable exposition aux frontières de l'humain.